Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que ça vous arrive de ressembler à ça? Moi, ça m'arrive. Et ça m'arrive souvent. Et ça m'arrive ce matin. J'ai laissé Lise à l'urgence. Ben oui. Alors, ça fait trois nuits qu'elle a la misère à respirer, à avaler. Puis, et ce matin, elle n'était plus capable. Alors, ça fait... Ça me place dans une... Ça fait drôle de... que Lise soit pas là, hein? C'est rare que je suis allé à l'église tout seul. Alors, oui, quand on passe des moments difficiles, puis ça, c'en est un, c'est quoi? Comme une épée de Damoclès, hein? L'épée de Damoclès, c'est Damoclès qui avait mis un épée au-dessus de sa tête avec un petit fil pour suspendre l'épée, là, pour... parce qu'il voulait, s'inquiéter, hein? Alors, il y a une fatigue mentale, là, c'est comme mon cerveau, là, il pense à tout ça, et puis c'est bon de savoir que je ne suis pas tout seul. Quand on lit la parole, l'homme selon le cœur de Dieu, c'était qui déjà? Bon, là, vous m'avez dit, hein, parce que... David, hein? Qu'est-ce qu'il écrit, David? Hein? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublies-tu sans cesse? Jusqu'à quand me caches-tu ta face? Jusqu'à quand j'ai des soucis dans mon âme, j'ai du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi? Regarde, Seigneur, réponds-moi, éclaire mes yeux. David, l'homme selon le cœur de Dieu, puis il ne se gêne pas pour dire à Dieu, t'es où, là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il n'est pas tout seul. Il crie à Dieu, il n'y a pas de réponse. Entre le moment où je crie à Dieu et la réponse, là, il y a une période de temps. C'est quoi qui se passe dans cette période-là? Là? Hein? Alors, c'est facile que nos pensées sont envahies de toutes sortes d'idées. Et puis, j'ai un petit truc, la nuit. Un exercice qui m'aide à me concentrer sur à bonne place, me concentrer sur Dieu. Savez-vous ce que je fais? Je nomme les attributs de Dieu par ordre alphabétique. Hein? Vous pouvez m'aider? A, Dieu est?
Amour.
Dieu est? B. Dieu est bon?
Bon.
C? Compassion. Oui. Compatissant, consolateur. C'est ce que j'ai écrit. Hein? D, Dieu est doux. Dieu est doux et humble de cœur. Hein? Et le éternel. Il est éternel. F, Dieu est fidèle. G, Dieu est grand. Glorieux. Glorieux. Hein? H, honorable, hein? Digne d'honneur. I, incroyable, infini. Et là, j'arrive à J. Il est juste, la justice, la juste juge. Mais il y a un autre J qui m'achale un petit peu. Dieu est, il est jaloux, hein? Porte le nom de jaloux. C'est pas rien, là. Ça fait partie de sa personnalité. Dieu jaloux. Hein? Il dit, tu ne te feras pas de statue et tu ne rendras pas un culte. Alors, la jalousie de Dieu, c'est qu'il ne veut pas avoir de compétition. Hein? Il n'y a pas d'autre Dieu dans ma vie. C'est quoi le premier commandement de Dieu? La première chose qu'un être humain doit faire? T'aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que celui-là. C'est lui qui a la première place. Alors, Dieu est jaloux. Mais pour moi, la jalousie, là, c'est un peu étrange, hein? C'est pas un péché, ça? Un jaloux? Dieu a un péché. Faites attention à ce que je dis là. Dieu, est-ce que Dieu a un besoin insatiable d'être adoré? Il a besoin, il est en manque d'adoration. Puis quand Michel Houle l'adore, ça comble son besoin de gloire. Non, ça n'ajoute rien à sa gloire, ça n'enlève rien à sa gloire. C'est pas ça. Il n'y a pas un gros égo qui a besoin d'être rempli. Non. Alors, c'est quoi cette jalousie-là de Dieu qui est parfaite? Le contraire de jalousie, ce serait quoi? Quelqu'un qui est contraire de jaloux, il est?
Indifférent.
Indifférent. Complètement indifférent. Il s'en fiche. Pas aucun intérêt pour moi. Pas intéressé à ce que je vis, ce que je ressens, ce que je suis en train de traverser. De bas de cœur, qu'ils aillent au diable. L'être humain, il a choisi le diable, mais qu'ils aillent au diable. Non. Et en grec, le mot grec, zélos, ça vous fait penser à de quoi? Zélos. Dieu est zélé. Zélé, le mot français. Dieu est passionné. Dieu est zélé, il est passionné. C'est ça que ça veut dire, jaloux. Il est passionné pour qui? Pour toi, pour moi, pour ses enfants. Alors, il n'est pas jaloux de moi. Il est jaloux pour moi. Dieu, il est jaloux. Toute sa puissance, sa force, là, c'est pour nous, cette jalousie-là. Et qu'est-ce qui provoque la jalousie de Dieu? C'est tout le mal que ça fait, que ça me fait lorsque je me détourne de lui pour me tourner vers le diable, vers les faux dieux. Toutes les conséquences que ça entraîne de ne pas aimer Dieu de tout mon cœur. Tout le mal que ça entraîne dans ma vie. Dieu souffre de me voir souffrir. Dieu souffre de te voir souffrir. Ça le choque. C'est ça, sa sainte jalousie. La jalousie humaine, elle est charnelle. Ça veut dire qu'elle est motivée. La jalousie de Dieu est motivée par l'amour. La jalousie humaine de l'homme, charnelle, elle est motivée par quoi? L'orgueil, l'égoïsme, l'envie. C'est mon gros égo qui est en jeu. Et s'il y a quelqu'un qui s'attaque à ça, il va y goûter. Et ça date pas d'hier. Vous vous souvenez? Dans l'Ancien Testament, y avait-tu de la jalousie dans l'Ancien Testament? Qui était jaloux? Caïn? Son frère était meilleur que lui, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Les frères de Joseph étaient jaloux. Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Vendu par tes frères. Là. Ça fait mal. Ça fait mal. Rachel, Léa. Et heureusement, il n'y a plus ça dans l'Église. On arrive dans le Nouveau Testament. On n'est plus dans l'Ancien Testament, là, on arrive dans le Nouveau Testament. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, la discorde, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Pas mieux que les êtres humains autour de nous. Alors, oui, il y en a de cette jalousie-là dans la famille de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Et oui, la chair stupide, là, est encore là, parmi nous. C'est une œuvre de la chair, Dans les œuvres de la chair, il y a la jalousie. Hein? Et toutes les autres en rouge, c'est les relations. Les œuvres de la chair, là, les trois quarts, c'est les relations entre frères et sœurs, entre des personnes. C'est ça la jalousie. C'est ça l'œuvre de la chair. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Hein? Quand on a un contact, quand on a des pensées, quand on a des conversations, quand on a des temps ensemble, qu'est-ce qui se passe entre nous, entre les deux cerveaux, là? Une personne rentre dans l'église, puis tout de suite, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la jalousie? Ben, c'est à droite, là. La solution est un peu plus loin. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair, crucifié la jalousie. Comment on fait ça, crucifier la jalousie, là? Hein? La première chose, c'est de s'en apercevoir. Oh, ce que j'ai dans mon cœur, là, ce que je pense, ce que je désire, ce que je dis, là, oh, ça, c'est de la jalousie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Stop. Stop. Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Tu prends cette phrase-là, ce désir-là, puis tu le cloues à la croix. Tu le crucifies. Hein? On a ce pouvoir-là. On ne peut pas se crucifier, ça prend quelqu'un d'autre, mais on peut crucifier la jalousie. On peut la prendre, puis la crucifier, la mettre au poteau. Telle pensée, tel jugement que j'ai contre un frère, tel préjugé, hein? Ce n'est pas les préjugés qui manquent. On vient de toutes sortes d'arrière-plans différents. Et ce n'est pas les préjugés. Qu'est-ce qu'on fait avec les préjugés? Ouais. La jalousie, on la crucifie. La poubelle, c'est bon aussi. Hein? On prend ça, on l'écrit, puis on dit ça va dans la poubelle. Ce n'est pas. On remplace ça par le fruit de l'esprit. Hein? Le contraire des œuvres de la chair, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie. L'amour, la paix, la joie. Alors, je choisis d'être motivé par l'amour, la paix, la joie, plutôt que la jalousie. Hein? Je suis zélé, je suis passionné pour mon frère, ma sœur qui est en train de vivre un moment difficile. Mon frère, ma sœur qui est tenté, là, qui a sombré dans le péché. Hein? Le contraire, ce serait d'être jaloux, ce serait d'être indifférent. Je m'en fiche qu'il aille chez le diable. Alors, non, non, non. Tu as un frère qui est dans le besoin et tu fais comme Mimi. Hein? Tu vas répondre à ses besoins. Alors, Dieu, il est jaloux. C'est bon? Amen? Wow! Dieu est jaloux. Wow! Ça s'en vient. On va l'avoir. Alors, ça veut dire qu'il est zélé, ça veut dire qu'il est passionné pour mon bien, pour mon bonheur. C'est ça que ça veut dire. Il est passionné pour mon bonheur. Son amour, il est ardent, il est brûlant, il m'aime de tout son cœur. Et c'est quoi ma réponse à l'amour brûlant, passionné de Dieu? C'est quoi ma réponse? Hein? L'aimer de tout mon cœur. Et en plus, aimer mon prochain, mon frère, mon sœur, ma sœur, avoir de la jalousie, de la bonne jalousie. Comment savoir si j'ai le bon Dieu? Comment savoir si j'ai le bon Dieu? Il y a une femme qui s'en allait en auto sur la route, il y a un gros camion qui le dépasse le soir. Gros camion qui le dépasse. Puis une fois qu'elle l'a dépassé, le camion se colle derrière elle. Fait que là, elle a peur un petit peu, elle accélère. Elle pèse sur l'accélérateur. Le camion pèse sur l'accélérateur, lui et tout. Oh boy, là, ça panique, hein? Et là, elle prend la première sortie qu'elle peut, qu'elle voit. Le camion la suit. Et là, elle s'arrête à station-service. Une station-service, elle s'arrête, elle sort de l'auto, puis elle crie... au secours, il y a quelqu'un qui m'en veut, là. Et puis le camionneur, il sort de son camion, Il s'en va vers son auto, il rouvre la porte en arrière, puis il y avait un bandit là, caché avec un couteau dans les mains qui allait l'attaquer, qui allait lui faire du mal. Pourquoi qu'elle se sauvait du camionneur? Pourquoi qu'elle se sauvait du camionneur? Elle n'avait pas la bonne impression. Elle n'avait pas la bonne perception de ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Ça se peut qu'on se sauve de Dieu, qu'on n'ait pas le bon Dieu. Ça se peut-tu que j'aie pas le goût de m'en approcher? J'ai pas le goût de lire ma Bible, j'ai pas le goût de venir à l'Église, j'ai pas le goût. Il y a de fortes raisons qu'il y a quelque chose que t'as pas le bon Dieu. Et quand le bon Dieu n'a pas l'air si bon que ça, hein, que les apparences disent le contraire, ou que les apparences sont trompeuses, que l'image et la perception que j'ai de Dieu risquent d'être faussées. Les Hébreux, 430 ans, esclaves, victimes de la méchanceté des Égyptiens, 430 ans. C'est long, là, hein? Je ne sais pas combien de générations, mais... Et waouh, tout à coup, ils sont délivrés, hein? L'Éternel qui vient les sauver. Plein de miracles du vrai Dieu qu'ils connaissent maintenant, qui choisissent de suivre le vrai Dieu. Et ils les amènent, ils ont trouvé le bon Dieu. Puis le bon Dieu les amène dans la terre promise, ils les amène au paradis. Hein? Wow! Oups! Il y a un petit oups. Ils se retrouvent où? Dans le désert. Puis Moïse, il est où? Il est sur la montagne. Puis la montagne, elle est quoi, la montagne? C'est le fun d'aller à la montagne, hein? Non, non, non. Hein? La montagne est en feu, tonnerre, éclair. Il y a 40 jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de Moïse. Il est mort. Il ne peut pas survivre là-dedans. Il est disparu. Il les a abandonnés. Il les a laissés là. Il n'y a plus rien à faire avec eux autres. Hein? Donc, ils se sentent laissés à eux-mêmes. Ils sont perdus en plein désert, puis aucun moyen, aucune ressource humaine. Il est où le bon Dieu? Il est où le bon Dieu, là? Ils ont perdu confiance. Ils ont une fausse impression, une fausse perception de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils vont s'en fabriquer un. Hein? Ils vont s'en fabriquer un de leur propre main avec leur or. Hein? Ils l'appellent comment? Fête en l'honneur de l'Éternel, la dernière ligne en beau. Fête en l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a l'air, l'Éternel? Il a l'air d'un veau d'or. Hein? Et puis, et voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Qui a fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte? Le veau d'or. Hey, c'est grave, là. C'est... Quelle infidélité! Quelle infidélité! C'est terrible quand on dit ça. Et est-ce que ça se peut qu'on traverse un désert, nous aussi? Un temps difficile? Peut-être que vous en avez traversé aussi, vous en traversez en ce moment. Qu'il arrive un malheur dans votre vie. Et il n'y a pas de réponse à nos prières. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Il est où le bon Dieu? Silence. Hein? Entre le moment où on crie à Dieu et le moment où Dieu répond, il y a un espace là de quoi il est rempli. Je perds confiance en Dieu. Hein? Et on se tourne vers des veaux d'or du monde. les dieux du monde. Il est où le plaisir dans ce monde? Hein? Il est où le plaisir? Il est là. Puis on peut se le payer, puis pas à peu près. Puis c'est facile. C'est pas les tentations qui manquent. Il y en a des veaux d'or. Il y a un veau d'or qui est en particulier, c'est pornographie. Selon un sondage, là, 60 % des chrétiens consomment de la pornographie. Et on le vérifie dans les forteresses, quand on fait des fêtes de semaine des forteresses, les gens confessent les luttes qu'ils ont. Et ils sont vrais, ils sont honnêtes. Ils sont capables de dire, oui, j'ai un problème avec la pornographie. Et le péché, c'est pas juste de regarder une femme puis la trouver belle, charmante. Hein? La femme, là, c'est le top de la création de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Il a créé tous les animaux. Ça faisait pas. Il a créé Adam, ça faisait pas. Il crée la femme. Alors, trouver la création belle, c'est correct. Hein? Il n'y a pas de péché là. Qu'est-ce qui est péché? Convoiter sexuellement. Hein? La convoiter. Coucher avec elle dans mon cœur. Ça, c'est yark. C'est commettre un adultère. Tromper ma femme, c'est mal. Mais savez-vous qu'est-ce qui est encore plus mal? Qu'est-ce qui fait encore plus de dégâts? C'est pas le pire, ça. Jacques dit, adultère que vous êtes, fais pas juste commettre un péché contre ta femme. Fais pas juste trahir ta femme, c'est pas juste, tu me trahis, moi. Fais pas juste infidèle à ta femme, t'es infidèle à Dieu. Hein? Savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? L'ami du monde est ennemi de Dieu. Et Dieu, dans la dernière phrase, l'esprit que Dieu fait habiter en nous, désire avec jalousie notre cœur tout entier. Dieu est jaloux. Puis quand tu vas regarder de la pornographie, puis tu tournes tes regards ailleurs, bien, tu commets un adultère contre Dieu. Alors, je suis raide, hein? La prochaine fois que tu es tenté, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine fois que tu es tenté par la porno, tu as un choix à faire. Tu dis stop, je ne vais pas là. Delete, hein? Change de poste. Non. Je ne me laisserai pas salir, je ne me laisserai pas emporter par le diable. Avec toutes les conséquences que ça va avoir dans ma vie. Hein? Dieu me désire avec jalousie. Il désire notre cœur tout entier. Dehors les idoles, dehors la porno. J'ai le bon Dieu et je choisis d'avoir confiance. Passe le test cette semaine. C'est un test. La porno, c'est un test. Qu'est-ce que tu choisis? Il y a une famille qui était en visite dans un village d'autrefois, un village d'antan. Et il y avait un atelier de poterie. Il y avait un potier qui... Ils sont rentrés pour visiter, ils ont regardé le potier faire le travail. Le potier, il prend un tas de boue, hein, de l'argile, un tas d'argile, de la boue toute molle. Qu'est-ce que ça vaut? La boue toute molle. Hein? Qu'est-ce que ça vaut, ça? À quoi ça sert? Hein? Il dépose cette argile-là sur le tour, tranquillement, pas vite. Il transforme cette boue-là en un vase qui vaut quelque chose, qui est utile à quelque chose, qui a une grande valeur. Et là, il y a un enfant dans l'atelier qui vient pour prendre le vase. Non, 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 touche pas à ça. Touche pas à ça. Il est trop fragile, tu vas tout le briser. Il dit, les autres là, sur l'étagère, tu peux y toucher parce qu'ils ont passé par le feu. 2000 degrés pendant 2 jours. Ils ont passé par le feu. Eux autres, tu peux t'en servir. Tu ne les briseras pas. Ils ont passé par le feu. Alors, est-ce qu'on est dans une fournaise? On est dans une fournaise. On passe par le feu. Oui, ça fait mal. Mais Dieu est capable de tourner ce malheur-là en bonheur. Ce mauvais-là en bon. Cette malédiction-là en bénédiction. Crois-tu ça? Ce que tu as passé comme malheur là, dans ta vie, là, Dieu est capable de transformer ça en un vase utile qui va pouvoir aider les autres. Crois-tu ça? Rendez grâce en toutes choses, même les choses mauvaises. D'être capable de rendre grâce à Dieu dans un moment comme ça, c'est un miracle. C'est surhumain. Ça dépasse la nature humaine, ça. Veux-tu faire un miracle? Hein? Aie confiance à Dieu quand tu es dans un désert, quand tu es en train de traverser une période difficile. Fais confiance à Dieu. Entre le moment où tu cries à Dieu et le moment où il va répondre, un mot. Confiance. Confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Hein? Aux forteresses, il y avait un homme qui avait perdu son père récemment. Et il passait à travers un deuil. C'était un bon papa. Ils s'aimaient beaucoup. Le père aimait son fils, le fils aimait son père. Ils étaient très bien ensemble. Puis tout à coup, bang, le papa attrape une maladie. Quelques semaines malade, puis il meurt. Là, le fils n'est plus capable. Il n'est plus capable. Il ne l'a pas pris. Il est en colère. Il était fâché contre Dieu. Son papa du ciel, pas bon. Son papa du ciel était pas bon. Il était capable de dire ça. Plus capable de prier, lire. Il s'est bloqué, là. Hein? Il s'est bloqué. Oui, il continue à aller à l'église, mais son cœur n'était pas là. Il était rempli de colère. Il y avait même des pensées suicidaires. Et puis le goût de vivre. Et il a confessé. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne crois pas que tu es le bon Dieu. Il a confessé. Hein? Il a confessé cette mauvaise impression-là, cette fausse perception-là qu'il avait de Dieu. Il a empêché d'envahir ses pensées. Il y a plusieurs mois que c'est arrivé, peut-être années. Et pendant toutes ces années-là, le diable avait eu l'emprise sur ses pensées. Et ça bloquait complètement sa confiance en Dieu. Il ne pouvait pas avoir confiance en un Dieu qui a enlevé son père. Et le jour où il a dit, non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pas vrai. Dieu m'aime. Hein? Son cœur a été libéré. Son cœur a été littéralement libéré. Il a goûté à l'amour infini de Dieu. Il a goûté à l'amour de son Père céleste comme jamais auparavant. Il avait goûté. Dieu a transformé son malheur en bonheur. Il a transformé cette malédiction-là en bénédiction. Et il y avait un témoignage puissant. Sa vie, son cœur a recommencé à battre, à vivre pour le Seigneur. Parce qu'il n'y avait pas peur, il avait plus peur du camionneur qui se sauve. Il y avait une autre dame en chaise roulante depuis longtemps. Elle ne marchait pas parce que des douleurs terribles, des spasmes sans arrêt. Et Lise, à un moment donné, est venue pour la prendre et puis elle a sursauté tellement que ça faisait mal. Alors, juste la toucher, c'était impossible. Elle souffrait d'un papa qui avait abusé d'elle quand elle était petite. Et après qu'il avait abusé d'elle, le papa disait « Ma petite princesse chérie d'amour. » Mon papa, hein? Elle souffrait d'un papa qui avait abusé d'elle. Et elle dit « Oui, je sais que Dieu m'aime, c'est écrit. Hein? » Mais je ne le ressens pas. Je ne sais pas c'est quoi l'amour d'un père. Je ne sais pas c'est quoi. Mais Dieu est le père des orphelins, hein? Ceux qui n'ont pas eu de père. Dieu a un amour spécial. Si tu as eu un mauvais père, Dieu a un amour spécial pour toi. M'approcher de Dieu, m'approcher de mon papa céleste pour moi, c'est dangereux. Comme avec mon père. Et elle a reconnu ça. Elle a confessé ça. Que Dieu n'était pas comme son père. Qu'elle avait un mensonge du diable qu'elle avait cru. Elle l'a confessé. Que Dieu n'est pas comme son père. Et wow! Wow! Jésus est venu guérir les cœurs brisé. Jésus a guéri son cœur brisé. Et wow! Elle a ressenti, elle a expérimenté l'amour de son papa céleste. Ouais. Quelques jours plus tard, après la fin de semaine, durant la nuit, elle se réveille, elle n'a plus de douleur, il n'y a plus de spasme. Elle entend une voix qui lui dit « Lève-toi ». Elle se lève, elle est capable de marcher. Elle marche. Dieu ne guérit pas juste les cœurs brisés. Il guérit les corps brisés. Et le dimanche de Pâques, est allé à l'église. Pour la première fois de sa vie, elle s'est levée. Elle a marché, puis elle s'est levée, puis elle a loué le Seigneur. Et toute l'église était en liesse, en allégresse. Alors, on a-tu un bon papa? Est-ce que ça vaut la peine de lui faire confiance? Quand on traverse des moments difficiles, on a perdu l'espérance humaine, il reste l'espérance en Dieu, dans mon papa céleste. Et regardez comment David, il commence son psaume, vous vous souvenez? Mais regardez comment il finit. Jusqu'à quand, etc., etc. Puis comment ça finit, le psaume? Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Mon cœur est dans l'allégresse. Y a-tu changé quelque chose pendant le psaume? Non. Il n'y a rien qui a changé, là. Mais entre les deux, son cœur est dans l'allégresse. À cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel car... Il me fait du bien. Il me fait du bien. Alors oui, on commence par le psaume qui dit d'être vrai, là. Hein? Oui, j'ai mal. Toutes les thérapies, là, ça commence par ça, là. J'ai un problème. J'ai un problème avec la porno. J'ai mal. Je suis en colère contre Dieu. Ça, c'est un bon départ, là. Là, t'es vrai, là. Et quand on est vrai, bien, on peut traiter, appliquer le bon remède, le bon traitement. Et voir Dieu qui guérit les cœurs brisés puis qui délivre les captifs. Hein? J'ai confiance, je suis dans l'allégresse. Et en terminant, je pense que j'ai une prescription pour vous. À prendre une fois par jour. Mais ce verset-là, on a dit beaucoup, hein? Quelqu'un veut le lire? À voix haute, fort. Alors, avant que je distribue la prescription, on va aller devant le Seigneur. Et puis, si ma prière correspond à ce que toi, tu as sur le cœur, bien, prie-la de tout ton cœur. Hein? Papa, il y a peut-être des personnes ce matin, Seigneur, qui... ce mot-là est difficile, ou ça correspond à rien, ça n'éprouve rien, parce qu'ils ont été blessés, ils ont souffert. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai mal? Seigneur, je suis en colère. Dans le fond de mon cœur, là, j'ai mal et je suis en colère. Parce qu'il y a telle chose qui est arrivée dans ma vie, ou telle chose qui se passe dans ma vie maintenant. Et Seigneur, c'est une colère qui est légitime. Parce que je suis arrivé au bout de mes forces. Je n'ai plus aucune force, aucune solution humaine. Je suis emprisonné dans ma colère, dans ma peine. Et Seigneur, je tourne mes yeux vers toi maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Vois l'amour de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur. Combien Dieu t'aime. Il te prend dans ses bras maintenant. Puis il te dit, aie confiance, je suis là. Et tout ce qui t'arrive, ça sert à quelque chose, ça sert à ton bien. Me fais-tu confiance? Et peux-tu dire oui dans ton cœur? Seigneur, malgré toutes ces choses-là que je ne comprends pas, je ne comprends pas que ça m'arrive. Seigneur, je choisis d'avoir confiance en toi. Plutôt que dans les veaux d'or. Les réponses humaines, les plaisirs humains, ils vont pas me donner la paix, la joie. Alors, Seigneur, entre dans mon cœur. Maintenant, guéris mon cœur brisé. Délivre-moi de cette prison dans laquelle je suis enfermé et que je puisse chanter tes louanges à la gloire de ton nom. Amen.